c'est qu'on a des citoyens qui disent qu'il faut limiter les mandats. On a un monde politique qui se montre pour l'instant assez ouvert. Moi, j'ai une question. Si on limite le nombre de mandats consécutifs à deux mandats, est-ce qu'on a un réservoir de gens suffisamment complet pour pouvoir renouveler régulièrement nos assemblées ?
Oui, alors effectivement, la professionnalisation de la vie politique, elle a mauvaise presse. Et pourtant, c'est un mal nécessaire en démocratie. Parce que d'une part, et c'est intéressant, les citoyens, les hommes et les femmes politiques l'ont dit, il faut amener des personnes qui sont capables d'apprendre et puis d'impacter. Et donc, du premier mandat, on ne peut pas le faire. Il en faut un deuxième, voire un troisième. C'est souvent ce qu'on observe. Mais en même temps, il faut pouvoir amener en permanence des idées nouvelles, des énergies nouvelles aussi, hein, pouvoir s'investir, contribuer à changer les choses. C'est le but de la politique. Et d'ailleurs, Paul Magnette disait que les mandats étaient très courts pour les parlementaires. Je lui confirme les chiffres. On a moins de deux mandats pour les députés. Par contre, pour les ministres, même pour les chefs d'état-major dans les partis, là, c'est beaucoup plus long. Hein. Donc les postes clés, malheureusement, c'est ceux qui sont les plus trustés. Mais je pense que si on débat du cumul des mandats, il faut également savoir pourquoi. C'est vraiment l'idée d'avoir des partis qui peuvent également amener de nouvelles formes de représentation.
Bert Kreusmans, on débat de choses qui sont peut-être spécifiques au sud du pays. Vous êtes le regard de la Flandre avec nous ce soir.
Quelle responsabilité.
Moi, j'ai envie de savoir si les débats qu'on mène ce soir sur le nombre de mandats, sur les carrières en politique, sur les fils d'eux, les copains des copains, on en parle aussi au nord ou c'est spécifiquement au sud, ça ?
Les Flamands et les Wallons ont beaucoup de gens quand même. Comme par exemple. Oui, en effet. Oui, bien sûr.
Et quoi, ça agace à quel point, vous pensez ?
Bah, par exemple, quand on parle des familles, on a un Premier ministre maintenant qui s'appelle Alexander, je ne peux pas dire Alexandre, mais Alexander de Croo, mais on sait bien, c'est un peu comme Alexandre Dumas. Il y a aussi un de Croo père, n'est-ce pas ?
Ouais.
Voilà. Et on a d'autres aussi, bien sûr. Mais moi, je me demande surtout, parce qu'on parle ici beaucoup des députés, mais est-ce que... Bon, ce que moi j'aime bien, c'est que le pouvoir est visible et on peut se demander si le pouvoir, ce sont les députés.
En tous les cas, on est clairement dans un changement de paradigme et l'idée de la participation commence vraiment à faire des petits en Belgique. On a des commissions mixtes citoyens et parlementaires. On a des budgets participatifs. Il y a plus de 90 budgets participatifs depuis 2018 qui ont été créés. On est vraiment dans un changement de mentalité avec une prise en main de ces dispositifs. Alors oui, le référendum pourrait faire partie de ces éléments. Mais j'ai entendu également un président de parti qui évoquait l'idée d'une culture. Et je pense que le véritable test, c'est bien cette culture de la participation qui doit inévitablement venir retirer un peu de pouvoir, notamment le pouvoir aux partis politiques. En Belgique, on le sait, les partis politiques ont toujours détenu un pouvoir très important.
Et vous entendez un monde politique ouvert à cette question ou qui tourne un peu autour de la question ?
Alors pour l'instant, on le voit, visiblement, ils y sont favorables. On regardera d'ailleurs les questions tout à l'heure. Mais je prends un exemple très concret. La 7e réforme de l'État, pour l'instant, se négocie sur une question de la consultation citoyenne. Est-ce que véritablement ce genre de proposition sera prise en compte ou finalement ça sera un gadget institutionnel ?
C'est ça la véritable question. Ouverte. La Flandre est demandeuse de plus de référendums, Bert Kreusmans ?
C'est-à-dire, l'idée est déjà là pour les libéraux flamands depuis 20 ans et c'est possible sur le plan communal et provincial, sur ces niveaux-là. À mon avis... On doit faire attention quand même parce qu'avec les référendums, quand on dit noir ou blanc, yes or no, oui ou non, ja ou of nein, il n'y a pas de marge pour chercher des compromis. Et bon, en Belgique, ça marche toujours avec des compromis entre le nord et le sud. Et voilà.
C'est dangereux, ça
Et aussi, à mon avis, oui. Il y a un monsieur qui disait, mais bon, il y a plus de flamands, c'est une majorité néerlandophone dans ce pays, par exemple. Autre chose, quand on regarde l'Angleterre, qui ont dit oui ou non pour le Brexit, les gens qui ont dit n'importe oui ou non, est-ce qu'ils se rendaient compte pourquoi ils ont voté ? Alors, à mon avis, les référendums, ça marche quand la question est tellement simple, tellement claire. Un parking souterrain devant l'église, oui. Mais, par exemple, une Flandre indépendante, dans un référendum, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la Flandre ? Avec quelles frontières, par exemple ?
La précision des questions.
Et c'est quoi l'indépendance ? C'est très difficile, à mon avis, de poser ces questions-là dans un référendum.
Je vais faire une petite... Vous avez entendu ce qu'on vient de dire. Des citoyens qui ont envie de s'investir par tirage au sort dans des assemblées, etc. Vous pensez qu'en Flandre, on est prêt à le faire aussi, quand même ?
Il y a des gens qui veulent faire ça. C'est l'écrivain David van Rijbroek qui d'ailleurs, assiste les gens de la communauté germanophone. Qui a déjà lancé des idées, des expériments sur ce plan-là en Flandre. Moi, j'étais tellement surpris par votre sondage qui disait que 50%, je pense, que
je vais le reprendre,
les gens qui veulent...
Oui. Je vais vous confirmer ça, allez-y. Oui, 50% des gens viennent sans hésiter.
Oui, moi je suis trop cynique. Non, c'est, mais comme Paul Magnette l'a bien formulé, on doit faire attention, c'est que, parce que, bon, on peut refuser, bien sûr, je suppose. Hein. On n'est pas obligé d'être là-dedans, dans cette assemblée. Et ça veut dire qu'on va avoir des groupes qui ne seront pas représentés et d'autres qui seront très fort présents. Par exemple, si on ne va pas rembourser les frais, c'est clair qu'on ne va pas. On ne va pas avoir des gens pauvres dans ces assemblées. C'est si simple que ça. Mmh. Et alors, on va donner combien de pouvoir aux assemblées? On doit vraiment faire attention.
Oui. Représenter les votes blancs dans les assemblées, bonne ou mauvaise idée?
Alors, il faut faire attention à ce que le remède ne soit pas pire que le mal. D'une part, parce qu'on a déjà des assemblées qui sont très fragmentées, avec une offre, et c'est un peu le paradoxe, on a une offre politique en fait, qui est bien plus représentée que par le passé. Mais en même temps, on a aussi une érosion avec ces votes blancs et ces votes nuls. Mais si on garde des sièges vides, alors que la formation de coalition gouvernementale prend déjà beaucoup de temps parce qu'on a un Parlement très diversifié, on risque d'aggraver et de déstabiliser les institutions davantage. Et puis, l'idée alors de les remplacer par des citoyens, ma foi, pourquoi pas? Mais à titre personnel, je pense qu'on est beaucoup plus ambitieux et surtout ingénieux dans l'association des citoyens à des assemblées. On ne peut pas avoir de version comme ça, bas de gamme, où les citoyens tirés au sort dans une assemblée, ben, c'est pour représenter, c'est vote blanc, c'est vote nul. Mais non, ça c'est un petit peu la version bas de gamme. Au contraire, il faut être ambitieux, il faut associer les deux types de démocratie, participative et représentative.
14 intercommunales en Wallonie gèrent la distribution de l'électricité. Après, on vous dit que votre facture électrique est chère, mais c'est ce qu'on appelle les GRD. Eh bien, ces structures vous prennent de l'argent dans votre facture. Donc, il faut supprimer toute une série d'organes. Et il faut aussi, dans la répartition des compétences, faire en sorte qu'une compétence soit gérée par un niveau de pouvoir. 9 ministres de la Santé, ça n'a aucun sens.
Est-ce qu'on ministres remet... de la mobilité.
On a 5 ministres de la mobilité.
Vous avez au MR deux ministres des sports, une qui gère les sportifs et l'autre qui gère les bâtiments des sportifs.
Avec vous sur le fait qu'il faut lutter contre toutes les formes de corruption, de manipulation et de postes inutiles. Mais quand on dit suppression des provinces, mais les provinces, vous êtes ennuyés comme moi, les provinces, c'est l'enseignement secondaire pour une partie, c'est de l'enseignement supérieur, c'est de l'aide sociale, c'est l'accueil de personnes handicapées, c'est des milliers de fonctionnaires, de travailleurs provinciaux qui rendent des services sociaux.
Est-ce qu'il faut des élus?
Mais oui, il faut des élus parce qu'il y a un budget, il y a des taxes provinciales, il y a un budget provincial. S'il n'y a pas des élus pour les contrôler, qui va les contrôler? Mes chers collègues, ce qu'ils veulent, c'est d'abord et avant tout attaquer les services publics et réduire les emplois et les services aux citoyens.
On va voir trop d'élus, trop de ministres. C'est une réalité ou c'est une vue de l'esprit? Si on compare par exemple avec l'étranger.
Mais ici, je pense qu'il faut bien cadrer le débat au risque de tomber dans une forme de démagogie. D'autres pays fédéraux, comme l'Allemagne, l'Espagne ou même la Suisse, sont des entités où il y a des gouvernements régionaux et communautaires. En Suisse, qui a plus ou moins la taille de la Belgique, il y a 26 cantons et autant de gouvernements sous-étatiques. En Espagne, en Allemagne, ce ne sont pas des dizaines, mais des vingtaines, des trentaines. Aux États-Unis, c'est des cinquantaines. Je ne vous parle même pas de l'Inde, où il y en a encore beaucoup plus. Donc, il faut aussi se reposer. Pourquoi a-t-on du fédéralisme en Belgique? Parce qu'on ne pouvait plus mener des politiques économiques en commun, en raison de situations différentes pour la Wallonie avec une industrie déclinante, des politiques communautaires, des politiques linguistiques, des politiques culturelles. Donc il y a un bien fondé au fédéralisme et là il faut être attentif à ne pas penser trop d'élus, trop d'institutions. Par contre ce qui manque, et là je rejoins une série d'avis qui a été émis, c'est sans doute un modèle de fonctionnement du fédéralisme. Nous n'avons pas de modèle de fonctionnement. Nous avons une fédéralisation par détricotage. Au début, chacun a voulu un petit peu... une série de modes opératoires, de politiques publiques particulières. On a même fait des régions et des communautés, modèle unique dans le monde. Et donc ce qu'il nous faut aujourd'hui, la 7e réforme de l'État, c'est l'enjeu. C'est de pouvoir travailler en commun sous un modèle que nous souhaitons.
Bert Kreusmans, vous entendez tout ce qui se dit aux tables. Vous trouvez les Wallons un peu poujadistes? C'est trop facile de dire on veut tout supprimer?
C'est-à-dire c'est trop compliqué. Allez, c'est plus compliqué en Wallonie qu'en Flandre. Vous avez d'abord les germanophones, la communauté germanophone. Et par exemple, si on veut simplifier les choses, on peut construire une sorte de région germanophone. Mais bien sûr, alors on va avoir plus de ministres, parce que alors on va avoir des ministres germanophones, pour des pouvoirs qui sont non, qui, maintenant qui sont chez les ministres wallons. Et bien sûr aussi Bruxelles francophone est clairement est plus importante pour les francophones. Chez nous, c'est la Flandre, c'est plus simple. Et oui, c'est vrai, il y a des Flamands à Bruxelles qui font partie du gouvernement bruxellois, mais on s'en fout complètement. Flandre, c'est pas tellement important, ces Flamands-là.
On va la noter, celle-là. C'est une des phrases de la soirée. C'est une des phrases de la soirée, on s'en fout complètement. J'imagine que c'est de l'humour un peu quand même. C'est important, les institutions bruxelloises. La Flandre, elle est attachée à Bruxelles quand même.
Et voilà pourquoi si c'est tellement compliqué. Parce qu'on a cette minorité néerlandophone en Wallonie, à Bruxelles. Et si on dit tout simplement, oui, mais il y a des ministres à Bruxelles et des ministres en Wallonie, il n'y a pas qu'un seul ministre qui sait faire les deux choses. Faites attention, on peut dire la même chose côté néerlandophone et dire on a plus besoin d'un ministre francophone à Bruxelles, il y a un flamand d'Anvers qui sait le faire aussi.
Effectivement, Jérémy Dodaigne, on vous avait demandé de travailler un peu là-dessus, évidemment. On est trop payé en Belgique quand on fait de la politique ou pas ?
Alors, si on compare avec un certain nombre d'États, et j'ai fait l'exercice avec notamment les États qui sont plus souvent dits frugaux dans les négociations européennes, par exemple, donc ceux qui sont plutôt soucieux de politiques d'austérité, notamment les Pays-Bas, par exemple, on voit qu'on est dans des montants tout à fait similaires, y compris si l'on compare par rapport aux revenus, au PIB par habitant, par exemple. Donc on n'est pas dans des proportions pour les députés plus élevées en Belgique en termes de salaire brut. Par contre, il est vrai que pour, et d'ailleurs le président Défi en parlait tout à l'heure, que pour toute une série d'indemnisations, notamment à la sortie, à l'époque, il y avait des enveloppes plus importantes, mais qui ont d'ailleurs été réformées récemment au cours des dernières années dans plusieurs assemblées du pays. Donc pour les parlementaires, ce n'est pas le cas, et ça correspond, le Centre de recherche et d'information sociopolitique a fait l'exercice, à plus ou moins 5 000, 6 000 euros dits nets poche pour ces parlementaires, donc on n'est pas non plus dans des proportions astronomiques. Là où il y a peut-être un point de progrès, c'est effectivement pour les postes de ministres, dans les différents exécutifs où les montants sont effectivement assez élevés en comparaison à d'autres pays. Mais à nouveau, ça ne reprend qu'un petit nombre par définition de mandataires. Alors, je vous propose, pour essayer de faire une synthèse de 10 propositions avec un grand nombre de partis, d'essayer peut-être de regrouper sur des thématiques ou des logiques transversales. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a unanimité sur l'ouverture du système politique. L'idée d'avoir des chambres avec des citoyens tirés au sort ou le référendum, il y a unanimité. Mais pour me faire l'avocat du diable, je ne suis pas très étonné non plus. Je vous l'ai dit en début d'émission, nous sommes dans un paradigme participatif qui se concrétise déjà institutionnellement. Les commissions mixtes, les consultations populaires, ce sont des acquis dans l'arsenal institutionnel.
Où les citoyens ne s'appliquent peut-être pas assez.
Tout à fait. Et où, sans doute, il faut encore travailler sur l'intégration entre démocratie représentative et démocratie participative. Parfois, c'est peut-être un peu gadget. Alors, le deuxième point qui est intéressant, c'est la réforme des institutions. Là, on voit qu'au sud du pays, il y a une volonté globale. On ne va pas dire peut-être une unanimité parfaite, parce que parfois, il y a des quelques petits commentaires. C'est pas juste oui, non.
Oui, on voit qu'il y a... Prévost en avait mis.
Voilà, tout à fait. Donc, on voit qu'il y a quand même le souci de réformer les institutions, d'avoir une intégration, une simplification au sud du pays.
Donc, on a bien bossé ou est-ce qu'on est passé à côté de l'objectif ?
Non, c'était très intéressant et pour moi, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que quand je regarde ici ce soir et je regarde la Flandre, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de différence quand on parle des soucis des citoyens. En Flandre aussi, on parle des dynasties politiques, les indemnisations, leurs pensions, simplifier les choses. Ce sont les mêmes choses, ça c'est clair. Et j'étais bien surpris par les gens ici et dans votre sondage qui disaient « moi je veux m'engager ». Ce sont des gens qui doivent se rendre compte que c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Mais bon, on a besoin des gens comme ça parce que si on n'a que des gens qui sont indifférents, alors ça devient dangereux. Mmh.